ça concerne le travail projet final de fait de semestre. Ça consiste en fait à faire l'entrevue avec un acteur politique de la scène montréalaise. En fait, il fallait trouver un enjeu et par la suite cibler l'acteur politique. Notre équipe et moi, on a ciblé l'enjeu, la controverse avec Uber et les industries de taxi. Ouais. Et en faisant des recherches, bon, Uber égale Guillaume Lavoie. Oh, non, oui, exactement.
Ça, j'aime pas beaucoup ce genre d'adéquation-là, mais ça va, oui.
Oh, bon, je m'excuse déjà par rapport à ça. Mais vous semblez aussi être la personne vraiment qui a beaucoup d'informations concernant le sujet et plus particulièrement concernant la richesse, le partage, l'économie du partage, en effet. Donc, ce que j'ai constaté, c'est que les Montréalais ne sont pas vraiment comprendre cette idée de notion de partage. Parce que selon vous, c'est vraiment efficace, la notion de partage. Et j'avais considéré, bon, j'ai lu un article qui disait que Denis Coderre disait que vous étiez allié avec la concurrence de l'industrie du taxi. Alors, il ne semble pas être favorable avec votre idée de le partage économique. Est-ce que ce serait possible vraiment d'expliquer un peu en détail?
Mais d'abord, une bonne base d'analyse, c'est de jamais commencer avec qu'est-ce que Denis Coderre pense. Si on veut être sûr d'avoir une réflexion logique, là, on part pas sur des bases comme celle-là. Je ne sais pas si vous avez d'abord consulté, il y a quelques vidéos disponibles sur YouTube, quand je présente à l'Assemblée nationale ou encore au Conseil, ou même d'ailleurs ça a été tourné ici, où est-ce que je fais un 4 minutes sur économie collaborative 101, où j'explique un peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis si vous me donnez 2 minutes, je vous fais le portrait de qu'est-ce que l'économie du partage ou collaborative, là, parce que peu importe sur le nom, là, réglons ça tout de suite,
okay.
Il y a un paquet d'étiquettes possibles. Économie collaborative, économie du partage, consommation collaborative, économie sur demande, l'économie des petits boulots, l'économie du nous, le capitalisme décentralisé, il y en a plein. Mais un peu comme les carottes sans cholestérol, là, les étiquettes tendent souvent à soutenir une rhétorique ou une autre pour des objectifs politiques X ou Y. Alors, pour passer par-dessus ça, il faut aller au produit puis voir de quoi il est fait. Parce que le monde universitaire, puis moi je suis un ancien académique, le monde universitaire est extraordinairement enclin à trouver des subdivisions, des nuances pour définir des phénomènes, un peu comme moi qui viens de relations industrielles. Puis je peux vous expliquer la différence en droit entre le congédiement, le licenciement et la mise à pied. Et ce sont trois choses complètement différentes. Mais dans les faits, dans les trois cas, vous n'avez plus d'emploi. Alors si on va plus général sur les fondamentaux, le produit, qu'est-ce que l'économie, par exemple, collaborative, c'est trois fondamentaux. Le premier, c'est la capacité d'avoir accès ou la possibilité d'avoir accès à la capacité excédentaire d'un bien ou d'une habilité. Le cas le plus évident, c'est la voiture, qui est sous-utilisée ou qui ne sert pas pendant à peu près 96% du temps.
OK, 96%.
À peu près, dépendamment de votre métier, mais grosso modo, si vous possédez une voiture, vous êtes en train de rouler avec entre 2 et 4% du temps. Donc, un réservoir de possibilités d'utilisation très, très grand. Même chose pour l'espace d'habitation, par exemple. Bon, mais quand vous êtes en dehors de la ville ou quand vous êtes en dehors de chez vous ou quand vous êtes en dehors du pays, ben cette habitation-là est inhabitée, donc elle n'a pas de fonction à ce moment-là. Alors, il y a un grand réservoir. Et j'ai pas d'études pour le Canada, mais les études que je connais, par exemple pour la Grande-Bretagne et les États-Unis, 80%, vous ferez le test chez vous ce soir, 80% de ce que l'on possède n'est utilisé qu'une fois par mois.
Intéressant. Voire
moins. Alors, pensez à les vêtements d'hiver, les équipements de sport, les outils, etc. Alors, il y a un potentiel d'utilisation très, très, très grand, ce qui fait qu'on est dans une société magnifiquement non productive, très peu productive. L'exemple classique qui revient toujours, c'est la perceuse électrique.
Okay.
Entre le moment où j'en prends possession et le moment où je m'en débarrasse, donc littéralement sa vie de perceuse, elle sera en train de tourner, donc vous avez le doigt enfoncé sur le bouton, là, elle est en fonction, dans sa vie de perceuse, entre 8 et 14 minutes. Alors, imaginez l'empreinte écologique de ça, de l'extraction du minerai de fer à l'extraction du minerai de cuivre, au pétrole pour la transformation pour en faire du plastique, à l'assemblage, à la livraison, à l'emballage, à la manutention, puis finalement pour arriver chez vous, et vous l'avez payé quand même un prix important, pour, dans le fond, 8 à 14 minutes. Alors, on est une société magnifiquement peu productive, qui consomme beaucoup plus. Alors, le premier pilier de l'économie collaborative, c'est la capacité d'avoir accès à ce réservoir de capacités résiduelles ou excédentaires. Je vais vous donner tout de suite ma conclusion. L'économie collaborative, c'est une société plus productive, plus durable et plus entrepreneuriale.
Okay.
Alors là, je vous ai parlé du premier pilier. Le deuxième pilier, c'est le pilier qui fait que l'accès devient plus fondamental que la propriété. Aujourd'hui, prenons l'exemple de la voiture. Pourquoi est-ce que quelqu'un accepterait, quelqu'un de rationnel, de payer 100 % de dépenses de voiture pour l'utiliser entre 2 et 4 %Ça ne fait pas de sens, mais ça fait du sens. Parce que la manière la plus sûre, la plus facile, la moins compliquée d'avoir accès à la voiture, c'est de la posséder. Quand vous possédez la voiture, vous pouvez y avoir accès quand vous voulez, comme vous voulez, où vous voulez. Alors, il n'y a pas d'autres équivalents à ça. L'économie collaborative, c'est la capacité d'avoir accès à quelque chose sans nécessairement devoir en être propriétaire. Un accès hyper simple, hyper sûr ou sécure, si vous voulez. Et donc, ça, on vient de transformer une société qui est basée à la fois dans ses politiques publiques et dans sa manière d'être construite, qui vise le propriétaire ou le fait de devoir passer par la propriété, à une société qui vise l'accès, qui vise l'utilisation. Je reviens avec mon exemple de la perceuse. Un grand spécialiste du design avait dit, ce que tu as besoin, c'est pas la perceuse, c'est le trou dans le mur. Alors, si je prends l'exemple de la voiture, ce que j'ai besoin, c'est pas d'une voiture, c'est de me déplacer du point A au point B. Si je prends l'exemple du logement, ce que j'ai besoin, c'est pas de posséder une maison, c'est un endroit pour vivre. Et là, faites l'analyse de toutes les choses que vous possédez. J'ai pas besoin de posséder des bâtons de golf, j'ai besoin d'avoir des bâtons de golf que j'aime quand je vais jouer au golf. Ou des skis quand je vais jouer, quand je vais faire du ski. Alors, ce renversement propriété versus accès, ben là, c'est la logique de, à partir du moment où je peux avoir accès à quelque chose sans en être propriétaire, ben là, d'où l'intérêt d'utiliser les choses à beaucoup plus grand pourcentage. Quand je parle de développement durable, pensez au stationnement, par exemple. Chaque fois que j'ai un stationnement qui n'est pas utilisé à 100%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une voiture dessus 24 heures sur 24, chaque fois que j'ai un bien qui n'est pas utilisé à 100%, la conséquence de ça, pour que tout le monde en ait, c'est que je vais devoir produire ce bien-là en double, en triple, en quadruple, en quintuple, etc. Alors là, on a deux piliers très, très importants. Le troisième pilier, c'est, et c'est là où le choc est le plus brutal avec les politiques publiques actuelles, puis là, mais dans le cas du taxi, c'est tout à fait évident, c'est l'abaissement général des barrières d'entrée dans les marchés. Dans notre monde, les politiques publiques que nous avons, ils sont soutenus par deux concepts jamais étayés, mais qui sont très, très présents. Le premier, c'est un certain concept de la gestion de l'offre. Ça peut être une gestion de l'offre stricte, comme le cas du taxi, ou une gestion de l'offre, informelle, ou, j'ai pas le mot, excusez-moi, je suis grippé, une gestion de l'offre effective ou presque réelle par les faits. Par exemple, prenez le cas d'un hôtel ou d'un restaurant. Il n'y a pas de gestion de l'offre dans l'hébergement. Il n'y a pas de gestion de l'offre comme on l'entendrait dans le transport urbain et dans la restauration. Mais dans les faits, on ne peut pas y entrer pas qui veut. Ça prend un investissement très important. Il faut que vous possédiez un lieu, il faut que vous possédiez des meubles, il faut que vous possédiez des équipements majeurs, il faut que vous vous lanciez dans la publicité. Alors, l'investissement est tel que ça représente une barrière d'entrée dans un marché. Un peu comme la marche est relativement haute. Alors, si la marche est haute, vous faites pas ça pour un soir dans l'année. Vous ouvrez pas un restaurant pour un soir dans l'année ou même un soir par mois. Alors, vous vous lancez là-dedans dans une certaine logique de à temps plein, ce sera ça votre vie, etc. Et là, j'arrive à mon deuxième espèce de concept jamais étayé qui soutient les politiques publiques, c'est une certaine thèse de ségrégation des fonctions. Vous êtes restaurateur, et c'est ça que vous allez faire tout le temps. Vous êtes chauffeur de taxi, et c'est ça que vous allez faire tout le temps. Vous êtes aubergiste, c'est ça que vous allez faire tout le temps. Et donc, dans cette logique-là, c'est normal que les deux viennent ensemble. La barrière d'entrée est tellement élevée que c'est sûr que tu vas faire ça pour le reste de ta vie ou pour un grand bout. En tout cas, tu vas t'y dédier de manière très importante. Prenez le cas des chauffeurs de taxi. On leur oblige à payer presque 1 500 $ pour faire un cours de 5 semaines. Oubliez l'argent, 5 semaines, c'est beaucoup, c'est un investissement majeur. Ensuite, vous devez avoir un permis particulier qui coûte des sous. Ensuite, vous avez le droit de conduire tel type de voiture et pas toutes les autres, selon certaines heures. Alors, quelqu'un doit faire tout ça, mais pour rentabiliser son investissement, il va s'y consacrer de manière importante. Alors, ces deux thèses-là tendent à être des freins à l'entrepreneuriat. Alors, l'abaissement général des barrières d'entrée dans les marchés, ça nous amène à une nation de micro-entrepreneurs. C'est-à-dire la capacité de tout un chacun d'entrer facilement à très faible coût dans un marché pour 1 heure, pour 2 heures, pour beaucoup, pour un peu, pour maintenant, pour peut-être plus tard, sur la base des biens, des habilités et du temps qu'ils possèdent déjà. Alors là, c'est un renversement complet de comment on a pensé le monde jusqu'à maintenant. Alors c'est pour ça que l'économie collaborative, c'est véritablement de repenser les fondamentaux sur lesquels on opère.
Lorsque vous parliez tout à l'heure de par rapport justement au chauffeur de taxi qui a le permis à prendre en charge, j'ai vu sur une vidéo que vous parliez en fait de l'exemple de Seattle concernant le fait, par exemple, d'avoir des rapports trimensuels par rapport aux courses, refuser l'accès aussi des pick-up sur rue, comme vous citez. Oui. De qu'est-ce que j'ai pu comprendre ici, c'est pas encore vraiment mis sur pied ou plus ou moins. En quoi ça pourrait, si on compare avec Uber, en quoi ça pourrait aider la cause d'appliquer d'une certaine façon l'exemple de Seattle?
Mais d'abord, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il faut reculer un peu.
Okay.
Prenons le taxi lui-même.
Oui.
Le taxi lui-même, vous savez, tout le débat sur Uber puis le taxi, là, ça revient à une seule question. Un peu comme le temps des sucres, de bouillir tout ça, qu'est-ce qui reste à la fin? Une question. Est-ce qu'on est pour ou on est contre un concept strict de la gestion de l'offre? Si on est pour la gestion de l'offre en transport urbain, moi je suis totalement opposé à ça, mais à ce moment-là, il ne peut pas y avoir d'Uber, il ne peut pas y avoir d'autres options que ceux que l'on aurait décidé qui ont le droit d'exister, puis ça s'appelle le taxi. Si, moi, je pense que la gestion de l'offre n'a que des conséquences néfastes pour la mobilité. Parce que en gestion de l'offre, le nombre de taxis à Montréal, je ne le sais pas exactement, mais je peux vous dire que ça répond toujours à deux chiffres. Il y en a soit toujours trop, ou soit toujours pas assez.
Okay.
Alors, la gestion flexible, ici, un concept de gestion de l'offre ouvert, vient régler ce problème-là. Et c'est là où comparer, par exemple, le taxi à Uber, c'est comme de comparer un poisson avec une jambe en bousse. Ça n'a pas de rapport. Ils sont pas. Ce sont deux modèles d'affaires qui opèrent sur des fondamentaux complètement différents. Dans le taxi, c'est de la gestion de l'offre, prédéterminée, où est-ce que ça, habituellement, on tend à avoir des gens qui s'y consacrent à temps plein. Dans le système UberX, puis quand je dis UberX ici, là, ou Uber, il faut voir ça comme un nom générique. Hein. Je peux vous citer au moins 10 compagnies qui sont comme des Uber.
Okay.
Aux États-Unis, entre autres, vous avez Sidecar et Lyft. En Inde, c'est Ola. Il y a Lazoos qui est en train d'émerger en Israël. Dans le nord-est des États-Unis, il y a Arcade City. Il y en a plusieurs. Quand je dis Uber, c'est comme si je disais Kleenex ou Frigidaire. Mais dans un système UberX, c'est sur la base de monsieur et madame tout le monde qui possède une voiture et du temps. Alors, est-ce qu'il serait logique, dans un contexte où on veut réglementer UberX, de dire, ben vous allez, puis c'est là l'erreur du ministre des Transports, qui est très très mal avisé, de dire, ben vous allez vous conformer aux règles actuelles. Attendez, les règles actuelles visent des voitures identifiées, hein, avec un luminaire, ça a un coût d'ailleurs.
Okay.
Est-ce que ce serait logique de vous demander, vous, de mettre un luminaire sur votre voiture privée pour faire 1 heure de UberX par mois? Ça n'a pas de sens. Alors, voyez-vous, la première erreur, c'est de prendre la nouvelle réalité et de la faire rentrer dans le vieux moule. Si on essaie de faire ça, c'est sûr que ça ne marchera pas. Alors, moi, j'aime beaucoup... Comment on prend? Par quel bout on prend ça? C'est ça la grande question pour les décideurs publics. Et le Mowat Center, qui est, j'en parle tout le temps, mais j'en parle souvent. Quand je présentais à l'Assemblée nationale, j'ai fait référence à cette étude-là. Moffat Center, qui est un think tank ontarien, très, très bien. Et ils ont fait un papier pour les décideurs publics. Comment t'approches ça, l'économie du partage? Tu le réglementes comment? Et parce qu'il y a un paquet de questions qui se confrontent. Et la première étape, c'est de se demander quel est l'objectif public le plus important. Et le reste doit s'accorder en fonction de ça. Si, lorsqu'il est question de transport urbain, l'objectif public le plus important, c'est plus d'options de mobilité. Le deuxième objectif public le plus important, c'est la sécurité. Tant de ceux qui offrent le service que de ceux qui consomment le service. Puis, troisième objectif public le plus important, c'est est-ce qu'il peut y avoir un cadre réglementaire qui fait du sens pour la vieille industrie comme la nouvelle. Puis, à date, la seule juridiction en Amérique du Nord qui est incapable d'avoir une discussion adulte là-dessus, c'est le Québec. Alors, ne serait-ce que par la comparaison, il n'y a absolument aucune justification pour être incapable d'avoir une solution mature qui fait du sens.
Alors, ça reviendra à ce que vous dites, parce que je regardais aussi sur Internet, on jouait beaucoup sur le mot de transport, en fait, commercial, covoiturage commercial. On jouait sur les mots, à savoir, est-ce que Uber est considéré comme un covoiturage commercial? Mais si je reprends aussi ce que vous dites, je vois que ça va selon le sens qui manque à leadership au niveau des acteurs politiques à mettre...
Il manque un leadership ou des fois, ça peut être une volonté. Moi, il est très clair que le maire Coderre souhaite qu'on préserve le monopole du taxi.
OK. Oui, c'est ça.
Alors, à ce moment-là, il est tout à fait logique avec ses propres objectifs. Moi, je pense que c'est des objectifs qui sont contre l'intérêt général. Mais le but ici, c'est plus de mobilité. Il faut être guidé par ça. Et c'est impossible d'arriver à ça avec une gestion de l'offre fixe. C'est impensable. C'est un échec. Et le but de la loi, ben, par exemple, si on prend la loi sur le profit, hein, c'est-à-dire oui. Quand ça devient commercial, parce que, ben là, ça voudrait dire que on veut réserver ça aux chauffeurs de taxi ou à l'industrie du taxi, parce que c'est pas tant les chauffeurs comme l'industrie. Mais il y a 8 au Québec seulement.
Okay.
À tous les jours, il y a 8 millions de sièges de voitures vides qui se promènent.
À tous les jours.
À tous les jours. C'est l'équivalent de la population québécoise. Alors, moi, j'y vois un potentiel d'amélioration infini, là. Alors, l'idée ici, c'est de déplacer plus de monde, parce que c'est très clair, là où vous avez des plateformes comme UberX, et encore plus lorsque vous tombez dans les options comme UberPool, vous pouvez embarquer plusieurs dans la même voiture, bien là, vous réduisez de manière majeure le nombre de voitures qui circulent pour avoir le même nombre de gens qui se promènent. Ça rencontre beaucoup d'objectifs des villes. Réduction de l'utilisation de l'auto solo, augmentation de la mobilité, réduction du coût de la mobilité, réduction de l'émission de GES. Je vois pas beaucoup de désavantages. Alors, on peut discuter du sexe des anges, à savoir, est-ce que c'est du covoiturage commercial ou du covoiturage urbain ou du transport rémunéré. À la fin, c'est pas important. Ce qui m'intéresse, c'est le potentiel qui est offert avec ça. Maintenant, comment je le fais atterrir? Parce qu'il y a une piste d'atterrissage politique. Je ne peux pas dire à l'industrie du taxi, ben c'est bien de valeur, mais organisez-vous. Ce serait socialement de mauvaises choses, puis politiquement, pas très, très bon non plus. Alors, se dire, bon, ben écoutez, il va y avoir un cadre réglementaire juste. Il faut qu'il soit juste pour tout le monde. Parce qu'à date, le cadre réglementaire, il profite à une minorité au détriment de la majorité. Alors, le cadre réglementaire juste, c'est de dire, bon, ben je veux avoir des UberX, plusieurs types de UberX. Moi, je pense que quelqu'un qui se déplace dans une voiture où il est tout seul devrait pouvoir embarquer qui il veut avec rémunération. Parce que ça fait plus de gens qui se déplacent. Alors, pour faire ça, on va réglementer les UberX de ce monde. Alors, il va y avoir Uber dit qu'il fait des enquêtes criminelles, donc plus exigeantes que ce que fait le bureau du taxi, d'ailleurs. Alors, très bien, je veux avoir la preuve de ça à chaque année ou à chaque 3 mois. Je veux avoir des voitures qui ont été inspectées. Uber dit qu'il le fait très bien. Je veux la preuve de ça à chaque 3 mois, à chaque 6 mois. On pourrait dire, bon, ben, les voitures que, si vous voulez faire du Uber, faut vous ayez 25 ans.
Okay, on détermine l'âge.
Parce qu'on détermine qu'il y a plus de chances d'accident entre 16 et 25. C'est l'assurance qui dit ça. Ah, parfait. On pourrait exiger ça. On pourrait exiger que pour faire du Uber au Québec, la voiture doit pas avoir plus que 7 ans. elle doit répondre à très l'exigence mécanique. On pourrait tout à fait faire ça, puis c'est pas compliqué. On pourrait même, après ça, dire, par darwinisme fiscal, l'État a toujours besoin d'argent. Alors, moi, je veux, pour permettre à Uber d'opérer, je veux avoir tant d'argent au 1er janvier.
Okay.
Plus X sous sur chaque course. Et c'est là où il est important de bien comprendre le modèle d'affaires comme étant quelque chose de différent. Parce que la base pour comprendre le modèle de l'économie collaborative, c'est l'abaissement de la barrière. Je veux pouvoir entrer dans un marché presque en claquant des doigts. Alors, si par exemple, vous dites, je veux avoir 100 $ de la part de tous tes chauffeurs, ben pour le chauffeur qui le fait à temps plein, ça peut peut-être faire du sens. Mais pour le chauffeur qui va aller faire une heure, ça fait aucun sens. Alors ça, c'est impensable. Si on fait un règlement comme ça, ça veut dire que c'est une volonté ferme de sacrer Uber d'or. C'est ça qu'on cherche à faire. Par contre, je reste avec exactement le même montant d'argent. Puis là, je prends un chiffre au hasard. Là. Je n'ai pas analysé ça. C'est pour l'exemple. Puis je dis à Uber, vous allez, vous, la compagnie, me donner 100 $ par chauffeur. Ça, c'est tout à fait jouable. Peut-être que le montant est trop élevé ou pas assez élevé. Mais comme mécanique, c'est tout à fait logique avec le modèle d'affaires Uber. Alors là, l'enjeu ici, c'est pas juste combien d'argent, c'est comment l'argent. Maintenant, pour le taxi. Le taxi, aujourd'hui, est totalement prisonnier d'une mentalité cartel. Il se comporte comme un cartel. Et l'enjeu ici, c'est de commencer à alléger la réglementation qui l'étouffe. Aujourd'hui, un cours de 5 semaines pour devenir chauffeur de taxi, ou 3 semaines est consacré à apprendre les rues de la ville,
okay.
Quand il y a des GPS supposément dans toutes les voitures, c'est plus nécessaire. Alors, imaginons que le cours coûte 1000 $ pour 5 semaines. Je raccourcis le cours de 3 semaines. Mais ça veut dire que mon cours maintenant, je viens de le réduire en termes de coût de 60%. Je viens de mettre 60% de dépenses, j'enlève 60% de dépenses dans les poches des chauffeurs. Ça devrait les aider, ça devrait changer l'industrie. Maintenant, est-ce que ça prend vraiment un permis spécial pour conduire un taxi? L'habilité pour conduire une voiture, c'est une voiture de tourisme, on s'entend. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'exiger un coût particulier, très élevé? L'inspection mécanique. L'inspection mécanique, j'ai pas le détail là, exact, mais pour les chauffeurs de taxi, pour les voitures, pardon, qui sont aussi, elle est très, très sévère, très exigeante et très chère. Mais comme moi, comme décideur public, j'ai la préoccupation, la qualité du service, ça appartient à l'industrie, puis c'est le client qui va en juger. Moi, comme décideur public, mes obligations sont des obligations de sécurité des occupants, en premier lieu. La sécurité des occupants, que ce soit le chauffeur ou celui qui est assis en arrière, à la fin, ça, c'est pas important. C'est beaucoup, est-ce que le fait d'être dans cette voiture-là les met en danger? Ou est-ce qu'il y a un danger pour la population qui va utiliser ce service-là? Ben, je traduis ça en termes mécaniques. Ça ressemble beaucoup à la direction, les freins, puis quelques petites autres choses. Est-ce que la voiture est capable d'arrêter? Est-ce que la voiture est capable d'éviter un obstacle? Est-ce que le coffre ferme bien? Ça, c'est de l'ordre du service à la clientèle.
Okay.
Est-ce que le pare-soleil fonctionne bien? Est-ce que les sièges sont un peu déchirés? C'est de l'ordre du service à la clientèle. Au même titre que vous allez au restaurant.
Oui.
Mais au restaurant, il y a des règles édictées par le gouvernement, notamment sur la salubrité et l'intrant, c'est-à-dire la nourriture que vous allez utiliser. Ça ne peut pas être de la viande avariée, etc. On est très, très préoccupé ici par votre santé. Hein? Allez-vous être malade, très malade, voire mourir si vous mangez ça? Mais la taille de l'assiette, la vitesse du service, est-ce que l'assiette était chaude? Est-ce que c'était bon? L'état n'est pas là. Ça, c'est vous qui allez le juger. Moi, ce qui m'importe, c'est que vous ne soyez pas malade ou que vous n'ayez pas un préjudice tellement grave que ça vous porterait, ça aurait des conséquences néfastes. Ce qui m'intéresse aussi, c'est si vous payez pour avoir, je sais pas moi, un burger, que vous ayez le burger. Puis si vous avez eu un burger, ben là, je suis très préoccupé de que vous le payiez pour le service rendu. Alors, la protection et la sécurité, c'est la protection physique, notamment des occupants, la santé et la sécurité, et la protection de ce qu'on pourrait appeler la transaction commerciale, donc protection du consommateur. Moi, si je vous ai conduit du point A au point B, est-ce que je suis payé? Et vous, si je vous ai payé pour me conduire du point A au point B, est-ce que vous allez recevoir le service? Là est la préoccupation première du législateur. Après ça vient maintenant comment est-ce que, même si je vous oblige à un cadre réglementaire plus sévère, parce que vous avez toujours des voitures dédiées à cette fonction-là. Vous allez avoir un luminaire sur le toit. Ça reste plus exigeant. Vous devez faire face à des dépenses importantes. Alors, un bon cadre réglementaire juste, c'est un cadre réglementaire qui n'est pas égal, mais qui est équitable. UberX, dans son modèle d'affaires, sera toujours un cadre réglementaire plus léger. Le taxi aura toujours un cadre réglementaire plus exigeant. Je viens de dire combien on allait le rendre moins exigeant qu'il l'est aujourd'hui, il sera quand même plus.
Okay.
Mais en échange d'un cadre réglementaire plus exigeant, ben là, moi, je vais vous donner des avantages commerciaux que les autres n'auront pas. Par exemple, je vais vous garantir une grande partie du marché qui ne sera qu'à vous. Vous pouvez aller piger partout ailleurs, mais il y a des choses que les UberX de ce monde pourront jamais prendre à vous, industrie du taxi. Exemple. L'accès aux voies réservées. L'accès aux voies réservées, en période de pointe, c'est un avantage commercial énorme. Parce que si moi je sors d'ici puis il faut que je me rende à l'hôtel de ville, je suis pas à 2-3 $ près, là. Je veux y aller le plus vite possible. Et là, celui qui peut rouler dans la voie réservée, ben, il y a probablement plus ma préférence, moi comme client. Maintenant, il y a des milliers de ce qu'on appelle les stands de taxi au coin des rues. Ça, c'est de l'espace public que l'industrie du taxi reçoit gratuitement. Mais c'est pas juste de l'espace public comme ça, là. C'est un avantage commercial. Parce que, bizarrement, les stands de taxi sont toujours aux bons endroits. Proche des cinémas, proche des écoles. Alors, c'est un avantage commercial. Ben, si je vous donne des avantages commerciaux, c'est normal que... Alors, si vous avez des avantages que les autres n'ont pas, peut-être normal que l'État soit un peu plus présent dans votre réglementation. C'est ça, être équitable. Ensuite de ça, tous les édifices gouvernementaux, les écoles, mais surtout les hôpitaux, ont des stands de taxi à la porte, sur le territoire privé de l'édifice. Donc, c'est pas la voie publique, là, c'est véritablement, par exemple, le terrain de l'hôpital.
Okay.
Mais ça, je pourrais le réserver au taxi. Ça peut faire partie d'une négociation. Et là, ça, c'est un avantage commercial majeur. Et ensuite vient tout ce qui est non praticable dans le modèle d'affaires des plateformes de transport en réseau. Vous voulez appeler avec un téléphone. Je parle pas d'une application, vous prenez un téléphone noir à roulette, là, et vous appelez. Vous ne pouvez pas appeler Uber, vous ne pouvez que appeler un taxi qui accepte les appels téléphoniques. Le hailing, c'est-à-dire l'arrêter sur la rue là,
oui, en
faisant signe de la main. Mais ça, si moi je sors d'un bar sur la rue Saint-Laurent, puis je le vois passer, puis je lève la rue, et c'est immédiat, Uber pourra jamais battre, là, je vois le taxi, il arrête, j'embarque. Alors, Uber, on pourrait leur interdire de faire du pick-up sur rue.
Okay.
Alors ça permet d'établir une piste d'atterrissage politique, puis de faire reconnaître que la valeur du permis ne peut pas tomber à zéro si je vous réserve une partie du marché. Peut-être qu'elle baissera.
Mais
elle ne peut pas être zéro. On est sûr dans notre modèle qu'elle ne peut pas être zéro. Tous les gens qui n'ont pas de carte de crédit.
Okay.
Même moi, d'ailleurs, mais c'est un cas réel, il y a 2 semaines, ma carte de crédit a été copiée, donc frauduleusement. Visa Desjardins m'appelle, protection de la fraude, disant « Bon, mais votre carte est suspendue, on va vous en imprimer une autre avec un numéro différent, vous allez l'avoir dans 2 jours. » Mais pendant 2 jours, je peux pas utiliser rien que je peux payer qu'une carte de crédit. Oui, Uber, mais tout, là. Le stationnement, il n'y a rien. Tout ce qui fonctionne avec une carte de crédit, j'ai plus accès. Je n'étais qu'en argent comptant. C'est impossible de prendre un Uber avec de l'argent comptant. C'est possible de prendre un taxi avec de l'argent comptant. Ça, c'est une partie du marché aussi. Et tous ceux qui n'ont pas de téléphone intelligent, par exemple. Si je perdais mon téléphone demain matin, je ne peux plus prendre Uber.
C'est vrai.
Mais je pourrais prendre encore le taxi. Alors, il existe une piste d'atterrissage, puis bizarrement, il n'y a rien de ce que je dis là qui est très, très, très novateur, parce que c'est le modèle, avec des variantes, que vous retrouvez dans toutes les juridictions d'Amérique du Nord. Toutes.
Okay.
La seule qui n'est pas dans ce genre de « comment je fais pour rendre ça possible », à date, c'est le Québec. Alors, moi, je suis de ceux qui poussent pour que l'on change véritablement la manière dont on regarde ça.
C'est parfait. Mais je te remercie beaucoup de les explications que vous avez dites pour l'entrevue. J'avais vérifié aussi sur YouTube, mais c'est sûr que des fois, bon, à force de rentendre, on comprend mieux la position. Et non, je me mets pas du côté de monsieur de Nicodère qui dit que vous êtes un fier partenaire de la concurrence des taxis. Alors, ceci complète l'entrevue.
Merci à vous.
Mais pour mon cours, je vous remercie beaucoup. Puis je continue à vous suivre sur les médias pour voir qu'est-ce qui se passe.
Good. Merci beaucoup.
Merci infiniment pour votre temps et passez une très belle journée.
Parfait.
Merci alors.
Merci.